Élection des députés au Parlement européen du 26 mai 2019. Contre le grand capital, le camp des travailleurs. Lutte ouvrière. Liste conduite par Nathalie Arthaud et Jean-Pierre Mercier.
Ouvriers, techniciens, employés, enseignants, retraités, les candidates et les candidats de lutte ouvrière se présentent pour faire entendre le camp des travailleurs, ses exigences et ses revendications. Partout en Europe, pour augmenter toujours davantage leurs profits, une minorité de grands industriels, banquiers, spéculateurs en tout genre mène une véritable guerre sociale contre les travailleurs, les chômeurs et les retraités des classes populaires. Grâce aux capitaux qui leur permettent de posséder les grands moyens de production, de transport, de distribution et de communication, ils sont les véritables maîtres de la société. Toutes les institutions actuelles, celles de l'Union européenne comme celles des différents États, sont des instruments au service de leurs intérêts. Face à cette minorité de riches privilégiés et à tous leurs représentants politiques, les candidats de lutte ouvrière feront entendre les intérêts matériels et politiques vitaux des travailleurs, à commencer par le droit à un emploi, à un salaire décent, à un logement, à la santé, à la culture et à l'éducation. Ils affirmeront qu'aucun des problèmes de la société, depuis les menaces sur l'environnement et le climat, jusqu'aux besoins les plus élémentaires, ne pourra être résolu sans renverser le pouvoir politique du grand capital, sans exproprier les grands groupes capitalistes et les banques pour les soumettre au contrôle de la collectivité. Ils affirmeront que les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, leur origine ou leur religion, appartiennent à la même classe. Ils ont les mêmes intérêts et un même combat à mener pour leur émancipation et pour offrir une perspective de progrès à l'ensemble de la société.
Emploi, interdire les licenciements et répartir le travail entre tous.
Alors qu'il y a près de 6 millions de chômeurs, des groupes riches à milliards comme Ford ou PSA ferment des sites et licencient. Le gouvernement Macron supprime lui aussi des milliers d'emplois dans la santé ou l'éducation. Partout, qu'on soit dans le privé ou dans le public, on travaille de plus en plus dur, avec des cadences infernales, des horaires à rallonge, des départs en retraite non remplacés. La seule façon de s'en prendre au chômage de masse serait d'interdire les licenciements et de créer des emplois pour les chômeurs. C'est possible en répartissant le travail entre tous les bras disponibles sans baisser les salaires. Et ce sera aux travailleurs de l'imposer.
Pouvoir d'achat amputé. Nous voulons vivre, pas survivre.
En se mobilisant, les Gilets jaunes ont mis en avant la question du pouvoir d'achat. Qu'on soit travailleur en activité, au chômage ou à la retraite, on ne s'en sort pas. Depuis des années, le grand patronat augmente ses bénéfices en bloquant les salaires, en multipliant les emplois précaires et sous-payés. Le gouvernement finance les cadeaux aux entreprises et à une minorité de riches privilégiés en amputant les retraites et les allocations. Cela suffit. Les quelques mesurettes que Macron a été contraint de prendre sous la pression des Gilets jaunes ne font pas l'affaire. Il faut augmenter les salaires d'au moins 300 euros. Pas un salaire, pas une retraite ne doit être inférieur à 1800 euros net. Et pour garantir le pouvoir d'achat, il faut imposer l'indexation des salaires et des retraites sur les prix.
Abolition du secret des affaires.
L'arrestation de Carlos Ghosn a levé un peu le voile sur les pratiques des capitalistes. Comptes maquillés, avantages aux frais de l'entreprise. Le grand patronat sait utiliser le secret bancaire et commercial pour cacher les diverses façons de détourner les richesses créées par les travailleurs. Le secret des affaires lui permet aussi de préparer plus facilement tous ces mauvais coups, les fermetures d'usines et les licenciements. Les scandales sanitaires, comme celui de l'amiante, du Mediator ou du Levothyrox, ont montré comment les entreprises utilisent le secret commercial pour privilégier leurs profits au détriment de la santé publique ou de l'environnement. Les salariés, les consommateurs peuvent collectivement tout savoir des comptes et des projets des entreprises de leur région. Il faut imposer le droit de regrouper les informations et de les rendre publiques.
L'Europe capitaliste a 60 ans et elle recule.
Née en 1957 avec le traité de Rome, la laborieuse construction européenne n'a jamais vraiment uni les peuples. Cela fait pourtant longtemps que les frontières séparant les pays européens sont dépassées, tant les économies sont interpénétrées et les populations mélangées. L'unification du continent serait un progrès, mais les bourgeoisies européennes en sont incapables. Les grandes puissances sont en concurrence, France, Allemagne, Grande-Bretagne. Aujourd'hui, des démagogues nationalistes présentent le Brexit ou le Frexit comme une solution à la crise. Mais la crise, c'est celle du capitalisme, Union européenne ou pas. Il n'y a qu'une alternative, une Europe unie par et pour tous ses travailleurs.
26 milliardaires
possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité, soit 3,5 milliards d'êtres humains.
87 milliards d'euros de profits.
Pour les seules entreprises du CAC 40 en 2018, c'est 2,2 millions d'emplois payés à 1 800 euros net, cotisations comprises. Ou la construction de 250 hôpitaux. Ou la construction de 800 000 logements.
Une Europe toujours plus inégale.
Dans les pays d'Europe de l'Est, le salaire minimum reste partout inférieur à 500 euros. La Grèce, l'Espagne ou le Portugal ont été ravagés par le chômage. Dans tous ces pays, des millions de travailleurs et de jeunes ont été contraints d'émigrer. Et dans les pays les plus riches comme dans les plus pauvres, ce sont les mêmes capitalistes de l'industrie, des banques et de la distribution, les carrefours Total, Siemens qui en profitent. La seule réponse des travailleurs, c'est la solidarité contre les capitalistes.
À bas l'Europe forteresse.
Si les frontières n'arrêtent ni la crise ni la rapacité des capitalistes, nos dirigeants les ferment aux migrants. Ils multiplient les lois visant à les empêcher de vivre ici et durcissent les traques policières. En mer, les moyens militaires ont remplacé les opérations de sauvetage. Sur terre, ils érigent de nouveaux murs, toujours plus hauts. Cette politique tue. Chaque année, des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants qui fuient des dictatures infâmes, des pays ravagés par les guerres ou simplement la misère, se noient en Méditerranée. Ceux qui ont survécu travailleront avec nous demain dans les mêmes entreprises. Ils sont nos sœurs et frères de classe. Les accueillir, c'est être plus fort, tous ensemble, contre ceux qui nous exploitent. Liberté de circulation et d'installation pour tous.
Algérie, le peuple contre le système.
Depuis le 22 février, des millions d'Algériens ont manifesté contre le clan Bouteflika et ceux qui accaparent les richesses. Ils ont des millions, nous sommes des millions, disent-ils. Les manœuvres du régime ne les ont pas découragés. Dans ce pays, si longtemps colonisé par la France, les Renault, Total et Sanofi poursuivent leurs affaires. Macron est solidaire du régime. Quant à Le Pen, égale à elle-même, elle veut fermer les frontières aux Algériens. À l'inverse, la solidarité des travailleurs d'ici va aux contestataires. Vive la lutte de nos sœurs et de nos frères de classe en Algérie.
Cibler le pantin Macron ou ceux qui tirent les ficelles.
Entre guillemets, Macron démission, ont scandé les gilets jaunes. Oui, mais remplacer cette marionnette des riches par une autre ne changerait pas grand-chose. Chacun se souvient du, entre guillemets, tout sauf Sarkozy. Or, sous Hollande, la bourgeoisie a continué à s'enrichir. Et la classe ouvrière a payé la note. Le vrai pouvoir n'est pas à l'Élysée. Il appartient à une poignée de milliardaires, les Arnault, Peugeot, Michelin, qui tiennent dans leurs mains toute l'économie, qui exploitent et licencient à tout va. C'est pourquoi dans leur combat, les travailleurs ont à viser le grand capital. Et pour empêcher les capitalistes de nuire, il n'y a pas d'autre moyen que de leur arracher leur pouvoir dictatorial sur les entreprises et sur l'économie. Il faudra les soumettre au contrôle des travailleurs, des consommateurs et des usagers.
Macron-Salvini, c'est comme au catch, c'est pour de faux.
Leur comédie dure depuis des mois. Le ministre d'extrême droite Salvini met en scène des colères contre Macron, accusé de vouloir faire de l'Italie, citation, un camp de réfugiés en Europe, fin de citation. Bien content, Macron se pose du coup en défenseur des droits humains et du progrès contre l'extrême droite. Mais les faits sont têtus. Si le style et les discours diffèrent, leur refus d'accueillir les migrants est semblable. D'ailleurs, la France accueille encore moins de migrants que l'Italie. Macron contre Salvini, pro contre anti-Union européenne, ce sont de faux combats. Le seul combat qui compte, c'est entre les travailleurs et les capitalistes.
Le Pen contre les immigrés pour les capitalistes.
Marine Le Pen et son FNRN accusent les travailleurs immigrés d'être responsables du chômage et des bas salaires. En tentant de diviser la classe ouvrière, Le Pen rend ainsi un service à la bourgeoisie. Elle aspire à accéder au pouvoir et parle de, entre guillemets, « donner le pouvoir au peuple ». Mais qu'elle remplace Macron n'enlèvera rien au pouvoir du grand capital sur l'économie. Pour ne pas déplaire au grand patron, Le Pen ne parle plus d'abandonner l'euro, ce qui était dans son programme en 2017. C'est dans leur force collective et dans leur capacité de lutter contre la bourgeoisie que les travailleurs doivent placer leur confiance, pas dans de dangereux démagogues.
Les enseignements du mouvement des Gilets jaunes.
Le mouvement des Gilets jaunes a dénoncé la baisse du pouvoir d'achat, les bas salaires et les retraites de misère. Il a montré qu'un mouvement déterminé pouvait faire ravaler sa morgue au gouvernement. Pour les travailleurs, la réponse au problème du pouvoir d'achat, c'est un emploi pour tous, avec un salaire décent. Ils ne pourront l'obtenir qu'en combattant le grand patronat. La force des travailleurs est au sein des entreprises où ils sont concentrés et qu'ils font fonctionner. C'est là qu'ils doivent se mobiliser pour imposer leurs revendications vitales aux capitalistes qui dirigent la société.
Brexit, Frexit, l'impasse du souverainisme.
Le Pen, Dupont-Aignan, Asselineau, etc. disent que nos problèmes viennent de Bruxelles, des traités européens ou de l'euro. Mais quand Ford ferme l'usine de Blanquefort, quand Sanofi, firme française richissime, supprime des milliers d'emplois, quand les patrons bloquent les salaires et n'embauchent que des travailleurs précaires, ils n'appliquent aucune directive européenne. Ils aggravent l'exploitation pour augmenter leurs profits. Et être pauvre en francs ou être pauvre en euros, qu'est-ce que cela change pour les travailleurs? La Suisse n'est pas dans l'Union européenne, pourtant les travailleurs de ce pays y sont exploités. En Grande-Bretagne, le Brexit sert d'alibi pour demander des sacrifices aux travailleurs. Alors, dans les frontières d'un pays comme dans celles de l'UE, ce qui compte, c'est le rapport des forces entre travailleurs et capitalistes.
Pour un parti communiste des travailleurs.
Face à l'offensive du grand capital, il ne faut pas seulement rejeter les partis de l'alternance politicienne. Les travailleurs doivent se doter de leur parti, à même de préparer et de conduire une contre-offensive. Ce parti devra renouer avec ce qui a fait la force du mouvement ouvrier à ses origines, un programme communiste révolutionnaire. Il se donnera comme objectif d'arracher le pouvoir à la bourgeoisie pour faire fonctionner la société sous le contrôle démocratique des travailleurs. C'est la seule façon d'empêcher que les luttes à venir ne soient conduites vers des impasses ou n'alimentent des courants hostiles à la classe ouvrière.
Les 79 candidats de lutte ouvrière.
Nathalie Artaud, enseignante, Seine-Saint-Denis. Jean-Pierre Mercier, ouvrier de l'automobile, Yvelines. Ghislaine Joachim Arnaud, technicienne de laboratoire, Martinique. Éric Pecker, ouvrier de l'automobile, Nord. Claire Rocher, infirmière hospitalière, Côte d'Or.
Éric Bellet, ouvrier, Cher. Monique Dabat, cheminote, Paris. Eddy Le Belair, technicien chantier naval, Loire-Atlantique. Farida Mekdoud, enseignante, Loiret. Pascal Lemanac, ouvrier de l'automobile, Seine-Maritime.
Chantal Gomez, dessinatrice technique, Isère. Jean-Yves Payet, conseiller agricole, La Réunion. Valérie Hamon, cheminote, Ille-et-Vilaine. François Roche, ouvrier dans l'aéronautique, Bouches-du-Rhône. Valérie Foissé, aide-soignante, Seine-Maritime.
Julien Vostin, ouvrier de l'automobile, Haut-Rhin. Anne Zantitenas, enseignante, N. Jean-Marie Nomertin, employé, Guadeloupe. Isabelle Bonnet, enseignante, Bouches-du-Rhône. Salah Keltoumi, ouvrier de l'automobile, Haut-Rhin.
Dominique Clergue, ouvrière qualifiée, Loiret. Thomas Rose, enseignant, Marne. Fanny Candal, postière, Gironde. Patrice Villeray, ouvrier ajusteur fonderie, Vienne. Marie Savre, psychologue en hôpital psychiatrique, Puy-de-Dôme.
Christophe Garcia, postier Calvados. Malena Adrada, professeur des écoles, Haute-Garonne. Ali Kaya, ouvrier de l'industrie automobile, Yvelines. Nathalie Malol, secrétaire médicale, Bouches-du-Rhône. Michel Darras, technicien dans l'automobile, Pas-de-Calais.
Julie Lucotte, infirmière, Saône-et-Loire. Vincent Chevrolier, professeur des écoles, Eure-et-Loire. Marie-Claude Rondeau, ouvrière retraitée, Nord. Olivier Minou, ouvrier dans la chimie, Rhône. Mélanie Perrault, enseignante, Eure.
Jean Camonin, technicien de maintenance, Essonne. Anne Brunet, enseignante en lycée professionnel, Indre-et-Loire. Olivier Nicolas, informaticien, Charente. Elisabeth Faucon, enseignante, Haute-Vienne. Martial Collet, ouvrier métallurgiste, Côte d'Armor.
Agathe Martin, cheminote, Val-de-Marne. Antoine Collin, enseignant-chercheur, Charente-Maritime. René Pochtovic, factrice, Oise. Mario Rinaldi, technicien de maintenance dans l'automobile, Moselle. Josepha Torres, technicienne de laboratoire, Val-de-Marne.
Nicolas Bazille, cheminot, Loire-Atlantique. Kélig Lagré, enseignante, Morbihan. Pierre Nordeman, employé d'organisme social, Meurthe-et-Moselle. Adèle Kopf, enseignante, Drôme. Michel Trépeau, ouvrier de l'automobile, Doux.
Cécile Faurite, cheminote, Rhône. Dominique Mariette, professeur retraité, Val d'Oise. Fatima Abdelawi, employé, Nord. Richard Blanco, employé au ministère du Travail, Tarn-et-Garonne. Fabienne Delorme, enseignante, Yonne.
Liberto Plana, employé d'hypermarché, Pyrénées-Orientales. Aurélie Jochot, infirmière, Paris. Vincent Goutagny, ouvrier dans l'industrie plastique, 1. Jacqueline Huard, enseignante, Pyrénées-Atlantiques. Vincent Combes, agent logistique aéronautique, Haute-Garonne.
Catherine Van Cotren, ouvrière dans l'aéronautique, Seine-et-Marne. Romain Brossard, enseignant, Loire. Louise Fève, cheminote, Bas-Rhin. François Meunier, instituteur, Haute-Pyrénées. Charline Joliveau, employé de banque, Paris.
Guillaume Perchet, électronicien, Gironde. Martine Hamelin, employé retraité, Mayenne. Bruno Paleni, professeur en lycée du bâtiment, Somme. Isabelle Leclerc, secrétaire retraité, Gare. Jacques Mattei, ouvrier métallurgiste, Haute-Savoie.
Estelle Jacquet, enseignante Alpes-Maritimes. Yves Cher, ouvrier retraité de l'automobile, Sarthe. Marie-Josée Faligan, infirmière en hôpital public, Maine-et-Loire. Maurice Chêne, retraité des télécommunications, Hérault. Dominique Revoy, enseignante Jura.
Philippe Julien, technicien de l'automobile retraité Seine-Saint-Denis, Ming Takawi, professeur des écoles Ardennes, Roland Spirco, retraité de l'automobile Oise, Arlette Laguiller, employée de banque retraitée Seine-Saint-Denis.
Tout savoir sur la campagne de lutte ouvrière, www.lutte-6ouvrière.org/européenne.